Vous écoutez Foi et Turbulence.
Francine, on a parlé des vieux sages. Oui. Vous me faisiez remarquer à un moment donné, oui, mais ça peut être aussi au féminin. Hein? C'est
oui, pas juste des vieilles sages.
Oui, j'aime l'expression. Oui. Le mot sagesse en français, ben, c'est féminin. Mais est-ce que c'est féminin en hébreu?
Absolument, ma chère. Le mot est féminin. Il est féminin au niveau de la grammaire, là.
Oui.
Mais ça va bien plus loin que ça. Et surtout si on n'oublie pas qu'on est dans une société patriarcale,
exact.
Les premiers chapitres du livre des Proverbes présentent oui. la sagesse personnifiée. Et elle est personnifiée en femme.
En
elle
femme.
Est personnifiée au féminin.
Oui.
Quand ces chapitres-là ont été traduits en grec, c'est devenu la Sophia.
La Sophia.
Hein, ce qui nous fait penser à notre collègue Sophie. C'est intéressant parce que, curieusement, les premiers chapitres ont été composés en dernier. Et ils ont été placés, donc, comme un prologue qui donne le ton à tout le livre, finalement.
Oui.
Et je vous en lis un tout petit bout.
Oui.
Une précision, ça ne s'entend pas quand on le dit à haute voix, mais les verbes en hébreu sont conjugués soit au masculin, soit au féminin. Hein? Donc, on sait que ces verbes-là sont au féminin. C'est pour ça que je vous dis, c'est une voix féminine qui parle. Voilà. Le Seigneur m'a engendré. C'est la sagesse qui parle.
Qui parle.
Le Seigneur m'a engendré, prélude à ses œuvres. Lorsqu'il établit les cieux, j'étais là. J'étais à ses côtés, donc aux côtés de Dieu, continuellement.
Oui.
J'étais son plaisir, jour après jour, jouant devant sa face en tout temps, jouant sur le sol de sa terre, et les hommes étaient mes délices. Maintenant, fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voix.
Alors, c'est une auto-présentation que fait la sagesse
d'elle-même. Voilà. Et donc, vous voyez, elle est personnifiée
oui.
comme un être créé par Dieu, mais qui n'appartient pas au monde, finalement.
Oui.
Elle est créée un peu comme si elle était le bras droit de Dieu. Hein? Au moment où Dieu crée, la sagesse
elle est
là.
Elle est là
avec lui, comme une personne dans la personne divine, on pourrait dire.
Extrêmement intéressant.
Très.
D'ailleurs, la vision des pères de l'Église.
Oui.
N'y a-t-il pas un élément...
Oui, il y a des pères de l'Église et plusieurs qui ont considéré la sagesse personnifiée ici comme une des trois personnes de la Trinité. Hein.
C'est, oui, c'est, oui. Bon, et c'est dans la tradition patristique.
Oui, ça n'a pas survécu beaucoup.
Mais c'est intéressant,
très intéressant
d'entendre, de voir comment dans cette tradition
oui,
des pères...
Elle est là
oui.
et elle existe en elle-même. Moi, ça
oui.
me fait penser aussi à Paul aux Colossiens, qui parle de Jésus comme étant le premier-né de toute créature.
Oui.
Vous voyez, c'est un peu comme la sagesse qui se présente comme la première-née de toute créature. Le Verbe dans le prologue de Jean.
Et
le Verbe
oui,
était
et,
avec Dieu
oui,
avant que tout fût créé.
Oui.
Voyez, on est assez
oui.
proche, là.
Et ça, on retrouve ça dans le livre des Proverbes, là, ce que vous
ce que je viens de vous lire,
hein?
Oui, c'est au chapitre 8.
Parce
je vous en lis un autre
beau.
Petit
oui,
bout
allez-y.
Au chapitre 8. La sagesse, donc, qui est personnifiée comme une femme, se promène par les rues, vous savez, et elle crie. Elle crie sur les places, elle élève la voix. À l'angle des carrefours, elle appelle. Près des portes, dans la ville, elle prononce son discours. « Jusque à quand, ô niais, aimerez-vous la niaiserie? Jusqu'à quand les railleurs se plairont-ils à la raillerie et les sots haïront-ils le savoir? Répondez à mon appel. Pour vous, je vais ouvrir mon cœur et vous faire connaître mes paroles. »
Très
c'est
très visuel, évocateur,
hein? Ah,
hein?
Oui,
très
oui.
évocateur.
Je,
et...
La voix, là, la
oui,
sagesse,
oui,
se promener sur la rue puis appeler
oui,
le monde.
Oui, et je trouve que ça a beaucoup de résonance avec le gros bon sens dont on parlait tout à l'heure, le bon sens.
Oui,
hein?
Tout à fait. Laissez faire vos niaiseries puis apprenez.
Apprenez.
Apprenez. Sur cette image des femmes, je fais une aparté qui sera le dernier commentaire sur le livre des Proverbes, Sylvie.
Oui.
Le dernier chapitre du livre, là, j'ai parlé du premier livret du livre des Proverbes.
Exact.
Où on personnifie la sagesse en
oui.
femme, ben imaginez-vous donc le dernier chapitre du livre aussi porte sur une figure de
image.
Femme. Oui, et ça n'est pas l'image de la sagesse, mais l'image de la femme idéale.
Ah,
on est en société patriarcale, évidemment. La femme idéale,
oui.
c'est la bonne épouse, la bonne mère.
Oui, heureux l'homme, me semble,
c'est ça.
Dans ces eaux-là, là, qu'on
mais,
met.
Mais si on lit bien...
Oui.
Moi, j'ai eu à le commenter dans une émission de Radio Ville-Marie, d'ailleurs.
Oui, d'accord.
Et à première lecture, ça me faisait penser à la chanson de Jean Ferrat, « Faut-il pleurer, faut-il en rire? »
Oui, ça mérite une deuxième lecture.
Oui, ça mérite une deuxième lecture. Puis on s'aperçoit que cette femme, elle, on lui reconnaît des actions. Elle tient commerce, par exemple, des choses comme ça. Des actions qui habituellement...
Le savoir-faire.
Sont, oui, mais c'est des actes habituellement tenus par des hommes. Donc, elle est assez remarquable, cette femme, donc, du chapitre 31 des Proverbes. C'est celle qu'on désigne à tort comme la femme forte de l'Évangile. Hein?
Ah, d'accord.
Oui, c'est ça. Je vous propose, Sylvie, comme un écho de la voix de la Sophia originelle, ce très beau chant médiéval composé par Hildegard von Bingen.
Francine Robert, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait des déclarations contradictoires et on a donné l'exemple de Job, entre autres. Hein?
Oui.
Alors, il y a des contestations de la sagesse traditionnelle.
Oui, certainement.
Pouvez-vous nous en parler
un peu? Même si ce sera trop bref pour ce que le beau livre de Job mériterait, la sagesse traditionnelle qui a tendance à tout simplifier, parfois en tout cas, du genre... si t'as des malheurs, là, tu les as cherchés. T'as couru après. Ou alors, vision plus religieuse, c'est parce que Dieu t'a puni, parce que t'es un pécheur. On a encore ça, vous savez, dans nos mentalités. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive?
Oui.
C'est bien ce que ça reflète.
Ça reflète la même
cette
sensibilité.
Même idée.
Oui,
voilà,
tout
que
à fait.
Si on a un malheur, on doit être coupable quelque part.
Oui.
Et donc, ça, c'était durci un peu dans la sagesse traditionnelle. Et le livre qui met en scène le personnage fictif de Job conteste très fortement.
Radicalement par toute sa vie.
Oui. Alors, si on veut juste se rappeler ce que c'est l'histoire de Job, il reçoit malheur sur malheur, ses troupeaux, sa maison, il perd tout, ses enfants, la santé. Et c'est le résultat d'une sorte de pari entre Dieu et le Satan qui fait partie de la cour divine dans l'imagerie de l'époque. Et il s'agissait de déterminer si Job va rester attaché à Dieu, même s'il reçoit plein de malheurs, finalement.
N'avons-nous pas entendu souvent « pauvre comme Job »
Oui, c'est ça.
C'est ça aussi.
« Pauvre comme Job », on a tout
ça,
perdu.
Ça, c'est pas drôle, là. T'as tout perdu.
T'es complètement dépouillé.
Lui et abandonné.
Même la santé, sa femme, elle est aigrie contre lui. Oui. Et alors, on se dit au moins, les amis pourraient nous aider. Job va rester fidèle à Dieu, mais il est pris avec des amis qui veulent l'aider, qui lui font de très longs discours.
Oui.
Ils lui servent la sagesse traditionnelle. Donc, s'il a tous ces malheurs-là, c'est qu'il a péché. Hein? Je résume de façon atroce, là, c'est beaucoup plus subtil, mais c'est ça. Finalement, ils appliquent en long discours ce que le proverbe, par exemple, chapitre 13, 21, résume très bien. « Le malheur poursuit les pécheurs et le bien récompense les justes. » Alors, si tu, le malheur te poursuit, c'est parce que tu es un pécheur. Alors, le simplisme classique, qui est pas très loin de ce qu'on pense quand on se dit, en voyant des gens mal pris, ils ont couru après.
On est très proche.
Parce que c'est le plus simple.
ou bien on ne comprend pas ce qui se passe.
Voilà, exactement. Et ce livre est exactement une réflexion sur ce que vous venez de dire, Sylvie, une réflexion sur la souffrance dont on ne comprend pas pourquoi elle est là.
Exactement. Hein?
Alors, Job affirme constamment dans tout le livre qu'il n'est pas un pécheur, qu'il est un juste, il n'a pas mérité son destin, et il se révolte contre cette conception-là selon laquelle les malheurs lui tombent dessus parce qu'il est un pécheur, et il défie Dieu de lui répondre.
C'est toute une déconstruction qui se, joue dans, dans cette expérience-là du croyant.
Oui, une vraie crise à la fois de la sagesse traditionnelle et de ses liens avec la foi en Dieu. Hein. Il y a une espèce de dogme un peu simpliste qui est complètement remis en question. Et au fond, le livre ne donne pas de réponse à la fin, ne donne pas vraiment une explication satisfaisante. Et je pense qu'en cela, il est sage aussi, ce livre.
Et ça reste ouvert.
Ça reste ouvert. C'est la question insoluble que pose pour nous à chaque fois la souffrance d'un innocent, la souffrance d'un enfant.
Effectivement, pourquoi des enfants meurent?
Vous voyez, ce livre nous oblige d'abord à compatir, je dirais, à la souffrance, nous invite, on peut pas nous obliger à compatir, ce livre nous invite à compatir à la souffrance et à ne pas résoudre trop vite avec des espèces de solutions apaisantes pour l'esprit, là.
Non.
Ah, c'est sa faute. Faut vivre avec cette question. Et la sagesse du livre de Job, elle est, à mon avis, dans cette non-réponse. Dans ce refus d'enfermer la souffrance dans des catégories simplistes.
Oui. Celle des autres, mais aussi parfois la nôtre.
Oui, oui, absolument.
La nôtre aussi.
Oui, on se sent coupable parce qu'on aime mieux souffrir parce qu'on est coupable que se dire qu'on souffre par hasard ou par bêtise humaine ou par n'importe quoi. Non, il y a une sagesse à rester ouvert et donc il y a une sagesse à critiquer la sagesse traditionnelle.
Effectivement.
Moi j'aime la Bible à cause de ça.
Oui,
hein. Elle est beaucoup en autocritique, en contradiction interne.
Oui.
Ça me
plaît. Il n'y a pas de voix unique, là.
Il n'y a pas de voix unique, exactement.
Il n'y a pas de voix unique.
Tout à fait.
Et pourquoi? Parce que toutes ces expériences qui sont vécues dans la condition humaine, ben, ne sont pas de voix unique non plus.
Exactement.
Hein. Il y a une diversité.
Ouais. On n'est pas, comme je dis souvent à mes étudiants, Sylvie, on n'est pas dans un western américain où le bon est bon et le méchant est méchant.
Ça serait tellement simple.
Mais la vie n'est pas comme ça et jamais la Bible n'est comme ça.
Effectivement.
C'est remarquable.
D'où le sens profond d'ailleurs des Écritures.
Oui, qui prennent en charge la complexité de l'expérience humaine.
Alors, avez parlé aussi de Qohélète.
Ben oui, un autre contestataire.
Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci?
Le livre de Job est admirable.
Oui, tout à fait.
Le livre de Qohélète.
Oui, il est délicieux.
Délicieux.
Est-ce qu'on peut dire
Absolument.
Ça?
Absolument. délicieux pour les gens qui aiment boire un peu amer, par exemple. Les gens qui aiment l'amer piquant, là.
Oui.
qui est un apéritif un peu amer. Il y a une amertume dans Qohélète que je trouve très contemporaine, Sylvie.
Tout à fait, dans un monde absurde.
Oui,
on cherche le bonheur dans un monde absurde.
Voilà. Qohélète, c'est comme s'il avait pris acte de la révolte de Job. Le livre de Qohélète, vous savez, c'est écrit au 3e siècle, avant Jésus-Christ, donc dans les années 200 quelque chose.
Oui.
C'est assez récent.
Ça aussi, c'est récent.
Pourquoi on peut dire ça? Parce qu'il y a des mots perses dans son hébreu. Par exemple, le mot pardès, qui est un mot perse, qui est l'ancêtre de notre mot paradis. Pardès, ça voulait dire jardin, vous voyez. Donc, ce cher Qohélète, il a appris que Job a raison de séparer les malheurs qui me tombent dessus avec mes mauvaises actions. Job a raison, mais il n'y a pas de réponse. Et Qohélète dit la même chose, il n'y a pas de réponse, mais il le dit avec beaucoup plus de calme.
Oui.
Je vous lis le début.
Oui, allez-y.
Si les gens n'ont pas le courage de tout lire Qohélète, le premier chapitre va le détour.
Hein?
Ouais. Je vous lis ça. J'ai eu à cœur de chercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. Je vous rappelle, Sylvie, chercher, explorer, observer, c'est ça la démarche classique du sage.
Du sage.
Qohélète continue, « C'est une occupation de malheur que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y applique. Car en beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'affliction. Et qui augmente son savoir, augmente sa douleur. » Alors que le sage traditionnel trouve joie et satisfaction à observer le monde, Qohélète trouve tristesse et affliction à observer le monde. Qohélète constate, à ses yeux, que l'ordre du monde, il est incompréhensible. Il ne doute pas que cet ordre existe, c'est un homme de l'Antiquité. mais il considère que rationnellement, l'homme ne peut pas comprendre l'ordre du monde, ne peut pas le découvrir. Et il accepte ça, finalement.
C'est ça, il y a une espèce de sagesse juste dans le fait de l'accepter.
Oui, Colette dit, il n'y a pas de lien clair entre bien agir et être heureux ou mal agir et être malheureux. Je vous le cite. Il y a des justes qui sont traités comme des méchants et des méchants qui connaissent le sort réservé aux justes. On voit ça.
On le voit.
Absolument, on le
et
voit.
Et on ne comprend pas.
Ce que Colette constate, c'est vrai, puis c'était certainement vrai à l'époque des sages traditionnels, mais... Oui. La sagesse traditionnelle n'aime pas ce genre de constat. Alors, Job le voyait, Colette le voit, Job contestait, Colette accepte. Et il en tire les conséquences. Alors, il vaut mieux jouir de la vie quand Dieu rend ça possible. Et puis, pour le reste, ben, il faut se résigner à l'aspect incompréhensible des choses. Hein. Bon, on peut voir que, d'après des indices bon, que je ne préciserai pas ici, on voit que Colette est probablement quelqu'un d'une classe assez aisée, comme le personnage narratif de Job, hein, qui avait
aussi,
beaucoup de troupeaux. Mais je dois quand même signaler que Colette, d'après ce qu'on peut voir dans son livre, il n'est pas aussi mal pris que Job. Il n'est pas accablé de malheur et de souffrance. Il semble mener une vie assez aisée. Et la sérénité qu'il affiche et qu'il propose est certainement plus facile quand la souffrance est moins pénible.
Alors, ce cher Colette, qui est l'existentialiste du temps? Hein?
Moi, ça me fait penser à certaines phrases de Albert Camus. Alors, il dit, écoutez, jadis on voyait Dieu comme étant garant de l'ordre du monde et de l'ordre social. Peut-être qu'on le voyait comme ça, mais en fait, Dieu s'éloigne. Il est caché à mes yeux, dit Colette. Je le dis dans mes mots, là, mais Dieu est caché. Oui. Colette, tu te demandes comment un vrai sage peut réagir à cette absence de Dieu.
Cette absence de
Dieu. Cette expression « absence de Dieu » n'est pas dans Colette. Elle reflète sa pensée et je trouve qu'elle est très contemporaine. C'est le sentiment qu'on a que Dieu est absent du monde. Hein.
Oui.
Et alors, il se pose une question qui est typique de toute sagesse. Quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Hein? Pourquoi faire tous ces efforts?
Comme disait notre Yvon Deschamps National,
Que ça donne. Voilà, Yvon Deschamps, tiens, je vais lui envoyer le livre de Colette. Je pense qu'il aimerait ça.
C'est peut-être une figure de sage aussi dans notre société, Yvon Deschamps.
Ouais. Un aspect assez contemporain, Sylvie, que je lisais chez un spécialiste de Colette, il disait que l'idéal grec à cette époque-là pénètre déjà en Palestine. On est après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Dans l'idéal grec de l'époque, tout homme qui veut réussir sa vie doit être une sorte d'entrepreneur. Vous voyez, il s'agit de bâtir sa carrière.
Il me semble que c'est très contemporain.
Être proactif, c'est ça. Si j'ai réussi, c'est parce que j'ai pris ma vie en main, je me suis organisé, puis j'ai entrepris. Colette reprend cette idée-là et il la critique. Hein, face à cette espèce d'optimisme grec, Colette affirme la finitude de l'être humain, les limites de la condition humaine. Et donc, c'est ça, quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Rien n'est garanti.
Non, puis il y a quelque chose de tellement réaliste aussi. Combien de personnes vont se poser la question?
Exactement. L'effort ne garantit rien.
Non.
Bon, je vous lis d'autres petits bouts. Hein. Chapitre 1,
oui.
Une réflexion sur les difficultés de la communication entre les humains. Ça, c'est pas
ça,
mal.
Ça, c'est de
aussi,
toujours. Hein?
Tous les mots sont fatigués. On ne peut plus les dire.
Oui. Une usure.
L'insatisfaction constante de l'être humain. Il l'exprime ainsi.
Oui.
L'œil ne se contente plus de ce qu'il voit et l'oreille ne se remplit pas de ce qu'elle entend. Et puis le classique Colette, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la phrase que tout le monde connaît. Hein?
Rien de nouveau sous le soleil qui date de, vous avez dit, 200 ans avant Jésus-Christ.
Entre 200 et 300 ans, donc 2200, 2300 ans de nous. Puis ça me rappelait une phrase de Ernest Renan au 19e siècle qui disait « Le présent est mauvais, le passé ne valait pas mieux, l'avenir ne sera pas préférable. » Ben là, c'est pas drôle.
C'est pas drôle.
Il y a, je dirais, un consentement qui peut être un consentement attristé, déprimant.
Une résignation, c'est une résignation. Que je pensais.
Voilà.
Alors, à ce moment-là, on peut vraiment déprimer, là.
Et pourtant, non, Coëlette ne déprime pas.
Non,
vous voyez,
parce qu'il prend une autre approche.
Il prend une autre approche. D'abord, il ne cesse ni de croire en Dieu, ni de croire en l'ordre du monde
et c'est déjà
voulu
beaucoup.
Par Dieu. Mais il ne croit pas que nous puissions le comprendre. Donc, il conteste la sagesse traditionnelle et il conteste le savoir des sages. Hein. Je vous en lis juste un petit bout. « J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut découvrir l'œuvre qui se fait sous le soleil. Bien que l'homme travaille à la rechercher, il ne la découvre pas. Et même le sage qui affirme qu'il sait ne peut la découvrir. » Bon, il devait y avoir des sages de l'époque qui ne l'aimaient pas du tout. Hein.
Non, c'était pas tellement populaire. Là.
Non, sûrement pas. D'ailleurs, il y a eu de la difficulté à entrer dans la Bible. Hein. Ce livre, ça a été contesté à une époque.
Oui, hein, ouais. Tout à fait. Il n'est pas entré aisément dans le canon...
Non, pas aisément. Alors, voyez, on pourrait bien dire, donc, c'est ça, déprimons en cœur et pleurons. Oui. Pas du tout.
Non, au contraire.
Non,
au contraire,
pas du tout comme
il y a
ça.
Un regard
bon,
tellement lucide.
Bon, il dit, OK, Dieu est éloigné, on doit pourtant continuer de croire en lui, on doit accepter le sentiment d'une distance de Dieu, un certain sentiment d'absurdité du monde. Oui. On doit accepter ce qui nous arrive, c'est la seule attitude possible. Et on doit profiter des bonnes choses de la vie.
Pendant qu'elle passe.
Oui,
et là, il y a une sagesse dans cette manière de faire.
Absolument.
Absolument. Hein.
Voilà, il y a beau dire vanité des vanités, tout est vanité. Oui. Coëlette conclut quand même, et très souvent, il va appeler à la joie. Hein, l'art de vivre qu'il conseille, je vous en lis un petit bout.
Oui.
Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Profitons des bonnes choses de la vie, c'est Dieu qui les donne, et acceptons les mauvaises choses, on doit apprendre à vivre avec elles.
Oui.
Il est pas pessimiste.
Il est pas sceptique non plus.
C'est comme ça. Il faut vivre avec ça. Oui. Il est très pragmatique. Oui. C'est de se bien disposer face à ce qui peut nous arriver, le bon comme le mauvais, le pire et le meilleur.
Une expression qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de dire, mais c'est la vie.
Exactement.
Non, c'est la vie.
Et ça n'est pas une raison pour faire n'importe quoi et agir n'importe comment. Là, Coëlette dit non, il faut quand même suivre les commandements, mais prenez pas ça comme une garantie du bonheur parce que la règle ne semble pas fonctionner tout le temps. Alors, ne sombrons pas dans la dépression, mais jouissons des beaux côtés de la vie, sachant apprécier les bons moments. Vivre, je dirais, pour conclure, au fond, Coëlette propose de continuer de vivre sous le regard de Dieu. Ça, c'est comme les sages de la tradition.
Oui.
Comme Job,
qui
vit sa colère et son défi, il les jette à la face de Dieu.
Exact.
Il ne tourne pas le dos
à
Dieu.
Au contraire.
Coëlette, c'est pareil. Il ne tourne pas le dos à Dieu, mais il renonce à mettre la main sur Dieu, d'une certaine manière.
Oui, ça lui échappe.
Ça lui échappe. Oui. Et on a besoin parfois, les chrétiens, les croyants de toute religion aujourd'hui, de se faire rappeler que Dieu n'est pas dans nos petites boîtes, hein, que quelque part...
Ni dans nos proverbes et...
Ni dans nos définitions théologiques.
Au contraire, il échappe tout seul.
Voilà, nous rappelle cette sagesse de se rappeler que Dieu nous échappe.
Oui. Francine, il me semble que j'aurais tellement à apprendre. Je n'ai qu'un petit apéritif. J'aurais tellement le goût d'en avoir plus.
C'est un monde dans la
sagesse biblique.
C'est
un monde comme tel. Oui, là, vous venez de piquer ma curiosité.
J'aimerais aussi citer un auteur et rendre hommage en même temps. Une bonne partie de ce que je vous ai dit, Sylvie. Vous savez, on réinvente pas le bouton à quatre trous. Hein.
Non, une
Surtout
chance.
Surtout en études bibliques, il y a toujours les chercheurs qui nous précèdent. Et un très bon petit livre de Monsieur Thomas Romer, qui s'appelle « Les chemins de la sagesse, Proverbes, Job et Coëlette » aux éditions du Moulin. C'est un tout petit livre paru en 1999. Je mettrai la référence d'ailleurs de ce livre sur le site.
Francine, un immense merci. Ça a été extrêmement intéressant et vous me donnez à la fois le goût d'être sage et à la fois de ne pas l'être. Alors, gros merci.
Oui, il ne faut pas être trop sage, mettre un peu de piquant dans la vie. Mais Coëlette serait d'accord avec vous. C'est moi, Sylvie, qui vous remercie d'avoir mené cette entrevue à ma place pour que je puisse occuper le fauteuil de l'invité. Merci surtout à vous, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci aussi à Louis Lesage qui coordonne cette série, ainsi qu'à Nathalie et Hélène pour leur soutien technique. Je vous rappelle que des suggestions de lecture seront disponibles sur notre site de l'Institut de pastoral des Dominicains. Et je me permets de vous signaler aussi un article que j'ai écrit sur les livres de sagesse qui est également disponible sur le site à l'adresse ipastorale.ca. Au microphone, c'est Francine Robert. Merci d'avoir été là. Bonne semaine et bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie.